Vous êtes branché sur les 3-8 et nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, en guise de préambule à ces discussions qu'on va avoir pendant plus ou moins une heure, je voulais partir d'un chiffre, mais qui parle de lui-même, c'est celui de la consommation mondiale de pétrole pour l'année 2004. Donc c'est 26,8 milliards de barils consommés par an, dont la moitié concerne le secteur des transports, ce qui est quand même assez énorme. Donc on parle beaucoup depuis quelque temps des notions des biocarburants qui se présentent comme une alternative à l'utilisation du gasoil et de l'essence et comme assez protecteur de l'environnement. Alors j'ai à mes côtés Jean-Louis Millet.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc vous êtes agriculteur bio et président notamment de l'APT, donc l'Association pour les technologies environnementales, donc une association qui promeut les technologies écologiques. Et vous venez de Merindol dans le Vaucluse.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et vous avez fini en juin d'organiser votre sixième salon sur les éco-énergies.
Voilà. Alors le salon qu'on organise à Merindol depuis 6 ans, le thème principal c'est économie d'énergie, énergie renouvelable. Et depuis 3 ans, on a rajouté un volet éco-construction. Et on a mis en premier, et c'est pour moi c'est très important, le terme économie d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de gaspillage d'énergie et de matières premières. Et ça ne peut pas durer comme ça pendant longtemps. Si nous vivions, la planète entière vivait comme nous, il faudrait 4 planètes. Donc voilà, donc on peut pas, c'est pas possible à moins d'aller vivre sur Mars, peut-être la Lune ou Jupiter, etc. Mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc on ne remplacera pas le nucléaire par les énergies renouvelables. C'est illusoire. Par contre, si on commençait par économiser, éteindre tous les appareils qui restent en veille, faire des choix, éteindre les pièces quand il n'y a personne, etc., il y a toute une démarche très importante à prendre en compte. Et là, on peut faire quelque chose de très intéressant et de très intelligent.
Alors, la notion de biocarburant, on va y revenir tout de suite. Je présente juste Jean-Pierre Petit, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui aussi. Donc, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, spécialiste dans la physique des plasmas. Alors, à tous deux, je vous demandais d'abord de quoi parle-t-on, de façon résumée, quand on parle de biocarburant aujourd'hui. Qui s'y colle? Jean-Pierre Millet, peut-être? Jean-Louis Millet? Jean-Pierre?
Moi, je sais pas, mais il y a le thème des biocarburants, mais il y a surtout le thème du moteur Pantone et du système SPAL.
On va en parler. C'est vrai que normalement, on va avoir David qui était là.
Donc, je reprends la parole. Vous pouvez quand même laisser parler un petit peu Jean-Pierre. Ce qui est des biocarburants, c'est quand même très important. On est en France aujourd'hui, et en France, on donne des sommes énormes aux agriculteurs pour mettre des terres en jachère. Et ça, c'est impensable et inadmissible. Par contre, on pourrait leur demander, même si on leur donne ces sommes, de mettre en place des cultures énergétiques, mais impérativement en bio. On ne va pas les mettre des engrais chimiques, des désherbants et des pesticides pour cultiver du tournesol ou du colza, pour faire de l'énergie, et on en aura mangé une quantité énorme. Et on aura empoisonné la terre en plus. Et on aura utilisé des engrais qui vont se retrouver très rapidement dans la nappe phréatique. Donc les biocarburants, c'est une très bonne formule, oui.
Mais alors, précisément, qu'est-ce que c'est? Ce sont des...
C'est de l'huile de colza, de l'huile de tournesol en particulier. Et puis, on peut aussi utiliser toutes les huiles de friture, sauf celles qui contiennent de l'huile de palme, parce que l'huile de palme fige à plus de 10 degrés. Voilà. Mais c'est quand même très très important. On ne remplacera pas le pétrole non plus, parce que aujourd'hui, quand on voit les autoroutes, quand on voit les routes, elles sont surchargées de véhicules inutiles. Quand on pense que la plupart des transports pour aller chercher du pain, pour emmener les enfants à l'école, etc., se font avec des véhicules maintenant, et en plus avec des 4x4, là je veux dire, c'est catastrophique, on ne peut pas continuer comme ça.
Alors concrètement, en fait, il y a 3 sortes de biocarburants. Les plus répandus, ce sont les esters et les diesters. Je pense que on va pas rentrer dans les détails, mais les diesters, par exemple, pourraient être substitués à 100% à l'essence ou au gazole, c'est ça?
Oui, mais pas à l'essence, au gazole.
Au gazole.
Et le diester, il faut savoir que c'est encore un point important. Le diester, il est sous le contrôle de Elf, qui est une filiale, comme tout le monde le sait, de Total. Au passage. Donc, on incorpore du biocarburant avec de l'éthanol ou des esters, et on arrive à faire un carburant qui va très bien sur les diesels. qui continue à polluer aussi. Et il faut, c'est comme je l'ai dit au début, il faut faire des choix. Il y a des camions aujourd'hui qui sillonnent les routes de France et d'Europe pour transporter des voitures, pour transporter des produits qui pourraient très bien passer par le rail, qui pourraient très bien passer par les canaux, etc. On a carrément saboté les transports fluviaux en France. Aujourd'hui, il faut faire redémarrer tous ces systèmes de transport beaucoup plus propres que la route. Et donc, ça fonctionne bien. On peut utiliser, nous, on a des véhicules qui fonctionnent à l'huile, l'huile de colza ou l'huile de tournesol. Ça présente un avantage parce que c'est de l'énergie renouvelable, parce que aussi, quand on fait une culture comme le tournesol ou le colza, on stocke le carbone, donc on va jouer le rôle de puits de carbone. Donc tous ces avantages-là sont à mettre en évidence, mais on n'a pas des possibilités en France pour remplacer totalement les pétroles par les biocarburants. Mais il y a une possibilité très importante.
Ouais, je voulais dire un mot très rapidement, c'est que s'agissant par exemple des huiles de récupération, que ce soit les huiles de friture, que ce soit les huiles de vidange, etc., il y a des directives en France qui fait qu'on paye pour détruire ces huiles, alors qu'on pourrait très bien les brûler dans simplement des groupes électrogènes. Et on a fait le calcul qu'il y a, je crois, 150 000 tonnes d'huiles qui sont éliminées chaque année. Ça représente 200 mégawatts électriques. 200 mégawatts électriques absolument gratuits, donc, avec une technologie qui n'est pas celle d'ITER, c'est simplement des groupes électrogènes. Et ça, on pourrait créer des emplois avec les gens qui vont collecter ces huiles, qui vont les transporter. C'est d'une souplesse extraordinaire.
Alors, en termes concrets, par exemple, si je décide de mettre ce qui n'est pas toléré en France, mais bon, malheureusement, on a du mal à adopter les directives européennes en la matière, mais si je décidais de mettre 50% d'huile végétale dans mon moteur en compensation de l'essence, combien j'économise sur un plan ?
Pas d'essence, du gasoil. Un véhicule à essence ne fonctionnera pas avec de l'huile de tournesol ou de colza. Par contre, si vous avez un diesel, vous pouvez remplacer jusqu'à la hauteur de 50%, sans aucun problème, sans aucun risque, votre diesel par de l'huile. Vous pouvez rajouter.
Alors quel rendement on a à la fin ? Quel gain on fait
Identique, il n'y a aucun problème, le véhicule fonctionne très très bien, identique. Et tous les véhicules qui sont équipés avec des... Alors là on va parler technique, les pompes Bosch, les véhicules qui sont équipés avec des pompes Bosch peuvent accepter de l'huile à 100%. Quand Volkswagen vend un véhicule, sur les livrets d'entretien, il précise que vous pouvez rouler 100% à l'huile.
Ce qui n'est pas le cas en fait, par exemple j'entendais dire sur les nouveaux moteurs des tracteurs, où là, il risquait d'y avoir des problèmes au niveau du moteur, qu'il fallait peut-être des adaptations à faire dessus, et que c'est assez onéreux.
Mais ça va venir. On a un ami, là, un ami commun, qui travaille et qui vient de mettre au point un petit appareil qui va s'adapter sur le circuit d'alimentation en gasoil du véhicule et qui va pouvoir permettre de rouler 100%. Pas 100% tout à fait, parce qu'il y aura une bicarburation, mais on peut dire 98% au diesel et 98% à l'huile et 2% au diesel.
Alors, en fait, on regrette que David ne soit pas là, David étant l'inventeur du système SPAD. Il a eu un petit inconvénient et il ne pouvait pas être aujourd'hui là. Donc, c'est une technique qui est dérivée du système Pantone. Jean-Pierre Petit, puisque vous connaissez ce système, est-ce que vous pouvez nous en toucher 2-3 mots ?
Écoutez, c'est très facile. Et lorsque j'ai commencé à installer ça sur mon site, des tas de gens m'ont écrit en disant « Mais vous savez, ça ne date pas d'hier. Ça fait des dizaines d'années qu'on met de l'eau dans les carburants pour augmenter le rendement de combustion dans les centrales thermiques. Je me rappelle que dans les premiers turboréacteurs, on avait des post-combustion avec injection d'eau. » Et à ce moment-là, on se dit « Mais pourquoi est-ce qu'on met de l'eau dans un carburant comme ça ? À quoi ça sert ?»
Et, Donc le principe, c'est que c'est de l'eau.
C'est de l'eau, c'est de l'aqua simplex. Alors maintenant, je vais expliquer un petit peu ça. C'est-à-dire que l'année dernière, donc les gens de APT m'avaient demandé de venir voir un petit peu toutes ces choses-là. J'ai pu voir des appareils en fonctionnement. Je me rappelle que j'étais extrêmement surpris de voir un système qui avait été monté sur une Mercedes à diesel. Et le démonstrateur prenait une serviette en papier, le mettait en pot d'échappement, en disant, vous voyez, quand c'est pas branché, c'est tout noir, et quand c'est branché, c'est pas noir. Et à un moment, je me suis dit, un chercheur, ça doit quand même faire des expériences. Alors, je me suis mis à quatre pattes, et j'ai respiré dans le pot d'échappement d'un diesel. Donc, je vous assure, ça vous donne l'idée de la baisse de pollution. C'est quand même spectaculaire. Bon, ouais. Je vais peut-être pas rester longtemps, mais vous savez, quand on met son nez derrière le pot d'échappement d'un diesel, on respire pas une bouffée, rien. Alors, comment ça peut marcher un truc comme ça? Eh bien, à mon avis, parce que c'est une chose qui n'est pas encore élucidée, on a dans la salle Jean-Paul Biberian, on va constituer une équipe. C'est ça qui est terrible, c'est que voilà des problèmes de physique fondamentales qui sont essentielles. Il faudrait flanquer du fric là-dedans, il faudrait qu'il y ait des laboratoires au travail. C'est inimaginable, le CNRS s'en fout éperdument, le ministère de l'Industrie et de la Recherche s'en fout, ils sont même pas au courant. Alors, de quoi est-ce qu'il peut s'agir? Ben, vous avez une façon de fabriquer de l'électricité avec de l'eau. Ça s'appelle la foudre. Ça s'appelle la...
Il y a une petite fille dans le public qui a envie de participer au débat.
Oui, on a la fille de Jean-Paul Bubéria qui est très... très... Allô, Cac. Je vais essayer de couvrir.
Allez, Jean-Pierre, peux-tu reprendre vos esprits?
Je reprends mes esprits. Elle est très charmeuse, il faut dire. Oui, alors, quand vous prenez un nuage d'orage, par exemple, dans ce nuage d'orage, vous avez un écoulement multiphasique, vous avez des particules de glace qui dégringolent, vous avez des gouttelettes d'eau qui montent, et les uns frottent sur les autres, et ça s'électrise. Et la preuve, c'est que ça fait une décharge, et la foudre, ça représente des tensions absolument phénoménales. Donc, dans les systèmes Pantone et les systèmes SPAD, ça marche un peu de la même façon, c'est-à-dire que on utilise d'abord l'énergie du pot d'échappement pour chauffer de l'eau, puis après, dans ces tours, on fait passer de l'air, on obtient, en sortie de ce qu'ils appellent un bulleur, un mélange d'air et d'eau, avec des choses qu'il faudrait analyser, avec une nébulisation d'eau, et après, c'est aspiré par le cylindre, et ça passe entre deux cylindres concentriques, autour d'un objet qui ressemble un peu à une navette de tisserand. La distance entre les deux parois, ça fait 1,5 mm, et ça, c'est mélangé au carburant, et il se trouve qu'à ce moment-là, que le rendement, et, la consommation de carburant baisse énormément, jusqu'à 50%.
Donc en fait, l'avantage de ce type de système, c'est que, d'un, ça supprime la pollution, et deuxièmement...
Le rendement énergétique incroyable.
Parce qu'en fait, c'est vrai que jusqu'ici, on considère que les énergies renouvelables, et en tout cas les biocarburants, pourraient être une solution alternative au pétrole, mais par contre là où c'est un peu plus contesté, c'est que effectivement parfois ça peut polluer autant.
Là pas du tout justement.
Non mais justement l'intérêt du SPAD c'est que on réduit la consommation de l'ordre de facilement 40-50% et ensuite on réduit la pollution. Mais j'avais écrit il y a un an à l'ADEME en demandant de nous financer une étude et on n'a jamais eu de réponse. Et bon, on a la chance d'avoir rencontré Jean-Pierre Petit et Jean-Paul Bubéria et ça va se faire, mais ça se fait pas dans le canal officiel. Je veux dire, c'est quand même dommage que l'ADEME nous ait pas répondu.
Mais alors, je vais expliquer pourquoi ça marche, parce que les gens se disent mais qu'est-ce que c'est, on met de l'eau comme ça avec du carburant et puis on a 50% de réduction. Ben, simplement que ce qu'on met dans le cylindre, c'est pas du carburant, c'est pas un mélange de, par exemple d'essence ou de kérosène et d'air. Il y a aussi des molécules d'eau électrisées et ces molécules d'eau électrisées, elles vont briser les molécules d'hydrocarbures, elles vont augmenter le rendement de combustion. Donc à mon avis, il n'y a pas de miracle. Je pense pas qu'on électrolyse l'eau, je pense pas qu'on tire l'énergie du vide ou quoi que ce soit. On fait simplement quelque chose de très simple, on augmente le rendement de combustion parce que les hydrocarbures qu'on met dans son cylindre, on n'en brûle qu'une partie. Le reste, ça part dans un pot catalytique. Le pot catalytique, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à brûler le carburant pour chauffer les petits oiseaux. Ça chauffe un pot catalytique.
En tout cas, comme on le disait, en fait, malheureusement, au regard de la législation française, ce genre de pratique n'est pas accepté, et plutôt punissable. Mais pourtant, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe, puisque sur les trois derniers mois, les consommateurs roulant en biocarburant ont été multipliés par 30, ce qui veut dire qu'en France, il y a plus ou moins entre 2000 et 3000 personnes qui roulent au biocarburant. Mais je crois que, je ne sais pas si aussi dans un souci d'environnement, mais peut-être plus l'attrait du prix, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, et il faut être réaliste. Donc un litre d'huile végétale se vend entre 0,70 et 0,80 euros, alors que le prix du diesel reste à 1,18 €.
Tout à fait. Mais on s'en rend compte, hein, je veux dire, nous on a demain une formation à Mérindol sur le SPAD, il y a au moins 150 personnes qui vont arriver de toute la France, y compris de la Suisse et de la Belgique, pour venir voir comment ça fonctionne, et pour faire ces installations sur les tracteurs agricoles, parce que nous pour le moment, on est quand même prudent, comme il y a la législation, comme vous l'avez dit, et donc on installe sur les tracteurs agricoles. On a fait des essais à petite échelle sur des véhicules, mais on n'installe pas, on n'équipe aucun véhicule. On installe les tracteurs agricoles, les engins de travaux publics, on a un projet sur les bateaux en ce moment, mais on n'a pas touché aux voitures, on n'y touchera pas tant que éventuellement on n'aura pas l'accord du gouvernement, qui quand même est très intéressé par l'argent.
Justement, le gouvernement a un intérêt à ce qu'on développe ce type d'énergie?
Ben non, parce que quand on roule avec de l'essence ou du gasoil, on paye la TIPP et la TVA. et vous savez que je crois que les taxes arrivent presque à 80% en 70. France. Voilà, 70%. Donc c'est un revenu énorme pour l'État,
ouais, qui a pas mal de
qui a pas mal de difficultés aujourd'hui à boucler son budget 2006, même en vendant les autoroutes.
Mais l'État, justement, le ministre des Transports nous a fait croire que cette taxe servait à entretenir les routes. Mais si tout l'argent servait à entretenir les routes, on regardait à faire le calcul avec Vuverien tout à l'heure, je pense qu'on pourrait mettre plaquer or sur le bitume. Il faudrait faire le calcul de ce qu'on paye en taxe avec le kilo d'or. Je pense qu'en un an, peut-être, on pourrait vraiment recouvrir les routes avec un micron d'or ou quelque chose comme ça. On fera le calcul, hein, avec Jean-Paul.
Enfin, ceci dit, c'est vrai que du côté de l'État, apparemment, il y a des efforts qui sont faits aussi, puisque je pense qu'actuellement, à la pompe, il y a de l'éther et du diester utilisés à hauteur de 0,8%, et que M. de Villepin a annoncé dernièrement qu'il allait passer à 5,75% d'ici à 2008, ce qui est 2 ans plus tôt prévu que par rapport aux directives européennes. Mais vous, Jean-Louis Millet, vous considérez toujours que la France est en retard?
On a 30 ans, entre 25 et 30 ans de retard par rapport à la plupart des pays européens. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces biocarburants à la pompe restent sous le contrôle des spécialistes qui sont les pétroliers et qui aiment beaucoup l'argent. Et donc, eux ne vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Faut pas, quand on voit le prix du pétrole aujourd'hui, Jean-Pierre arrive de Dubaï, 47% d'augmentation pour les revenus.
58.
Ah, ça a augmenté encore.
Oui, ils ont eu 58%. C'est-à-dire que nous, on a un taux de croissance, mais l'émir du coin, son secrétaire, il dit, votre excellence, oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, cette année, on a gagné 58% de plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces frics? Je vous assure, ils ne savent pas quoi faire de leur argent.
En tout cas, là où la France n'a pas de retard, c'est en matière d'éolienne. Puisqu'en fait, elle détient le deuxième potentiel éolien d'Europe, peut-être plus au niveau de la région PACA, où là, on accuse un retard par rapport aux autres régions d'Europe. Et là, j'accueille en fait Éric Buchet du GERAS, donc Groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité, qui œuvre également à l'espace éolien développement à La Ciotat.
Bonjour.
Donc, bonjour. Alors, Éric Buchet, vous êtes en charge de la réalisation d'études préalables au développement des parcs éoliens dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Et vous menez également des recherches sur les études cartographiques du gisement éolien pour les pouvoirs publics et notamment pour la ville de Marseille.
Oui, ça, c'est des études qui se sont faites dans le passé. Mon rôle est de développer des projets éoliens, entre autres, de développer des projets éoliens sur Bouches-du-Rhône, enfin sur PACA et Rhône-Alpes, de
d'ailleurs,
manière plus générale.
C'est vous qui avez, je veux dire, supervisé entre guillemets l'installation du parc éolien qu'on est aujourd'hui à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Alors pas de ce parc, mais du programme qui j'ai assisté le port autonome dans la réalisation de la mise en place du programme Opal, qui est un programme d'installation d'une centaine de mégawatts éoliens sur le périmètre du port autonome. Et qui va voir le jour, les études sont actuellement menées par un certain nombre d'opérateurs et ça devrait voir le jour dans les années, enfin dans les 2 années qui viennent. Oui.
Alors dites-moi Éric Buchet, on a souvent critiqué en fait l'énergie éolienne comme étant peu rentable, comme étant un polluant esthétique pour reprendre les termes. Quelle a été l'évolution de cette énergie?
Alors, je vais vous reprendre d'ailleurs sur ce que vous avez annoncé là au tout début sur l'éolien, c'est-à-dire sur la place de la France par rapport à l'énergie éolienne. Alors, si effectivement on a le deuxième gisement éolien d'Europe, quand même. Par contre, la France est dernier d'Europe en la matière, en matière d'installation et d'équipement éolien.
Les informations étaient donc erronées.
Il n'y a pas qu'en PACA, c'est toute la France qui est malheureusement dans ce piètre état. Pourquoi? Parce que les pays voisins, tout simplement, se sont attelés à cette affaire bien avant nous et ont fait des choix énergétiques qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on fait en France traditionnellement. Il y a plein de raisons à ça. C'est pas du tout des raisons économiques, parce que vous vous rendez bien compte que les Anglais, les Allemands, les Danois, les Espagnols, surtout, qui sont les premiers aujourd'hui à développer l'énergie éolienne, ils font pas ça comme ça pour faire plaisir aux petits oiseaux. Donc il y a de véritables raisons derrière ça, qui sont des choix stratégiques en matière d'énergie que la France n'arrive pas et n'arrive toujours pas à faire aujourd'hui, bien qu'elle se soit dotée des moyens de le faire, des moyens réglementaires, j'entends. Mais ça décolle pas parce que, ou peu, ça décolle quand même un peu, mais très peu, parce qu'il y a des blocages institutionnels essentiellement.
Parce qu'on a en France énormément de nucléaire, parce que le choix est fait depuis 50 ans sur le nucléaire. Mais... parce qu'il faut savoir que 95% du budget de la recherche en matière d'énergie en France va au nucléaire. C'est quand même catastrophique. Et donc on peut pas, nos dirigeants, dans les années 70, ont choisi de développer le plus grand parc, un des plus grands parcs nucléaires du monde, et ils vont pas remettre en question, même malgré l'accident de Tchernobyl, etc.
Une remarque là-dessus, c'est que vous savez très bien que pourquoi est-ce que les Français n'ont pas été avertis que le nuage de Tchernobyl allait passer au-dessus, c'est parce qu'on ne voulait pas que les gens soient contre le programme nucléaire. Immédiatement, depuis 6 semaines, Mitterrand était président, tout de suite on a dit, il ne faut pas dire un mot, et ça a été la langue de bois, et on a mis en danger la santé des Français pour maintenir les intérêts du lobby nucléaire. C'est pas rien.
Et il faut quand même savoir, c'est très très grave, le comportement de nos responsables à l'époque peuvent être considérés comme criminels. Parce que si on avait dit la vérité aux Français, ce qui a été fait dans tous les pays autour de la France, on aurait pu encourager les gens et on aurait pu demander aux gens de prendre des plaquettes d'iode, de saturer les thyroïdes. Et en matière de nuages de Tchernobyl, les deux corps qui prédominaient, c'était l'iode 131 et le césium 137. La période du césium 137 est 30 ans et la période de l'iode, c'est que 8 jours. Donc il suffisait de faire saturer les thyroïdes. Maintenant, les gens qui habitent autour de centrales nucléaires, à environ 15 km, ont gratuitement, tous les ans, des plaquettes d'iode. Donc c'est pas idiot ce que je dis, c'est que l'État, à l'époque, a été criminel.
Mmh. Alors si vous voulez bien, parce que malheureusement on a un plateau très serré, bien sûr, on va revenir donc sur la notion des éoliennes. Mmh. Donc où on en est aujourd'hui en matière d'éoliennes
Alors sur l'énergie éolienne aujourd'hui, très simplement, qui c'est d'abord l'éolien dans le monde, c'est l'Europe. Les principaux fabricants sont en Europe, les principaux utilisateurs aussi, c'est l'Espagne, je la citais, c'est l'Allemagne, c'est le Danemark, c'est bientôt l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, et à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en France aujourd'hui. On a fin 2004 en France 400 mégawatts installés, on en a 18 000 en Allemagne, ce qui remplace, ceci dit, ça c'est la puissance, mais en énergie produite annuelle, ce qui remplace à peu près 5 centrales nucléaires, un peu plus même peut-être, complètement, hein. Donc le choix est clair, quoi. Le choix, voilà. Même chose en Espagne où ils ont aujourd'hui 8000 mégawatts installés. Donc c'est pas les mêmes ordres de grandeur du tout.
Avec toujours malheureusement une certaine dépendance par rapport aux conditions climatiques, parce que s'il n'y a pas de vent, on produit pas d'énergie. Et alors à ce moment-là, on repasse sur le nucléaire.
Bien. Alors s'il n'y a pas de vent, ça produit pas, bien entendu. C'est pour ça que je parlais d'énergie pour être tout à fait honnête, hein, parce que la puissance, on l'a pas toujours. On l'a à certains moments, mais pas toujours. Grosso modo, là, en équivalent à un tiers, entre un quart et un tiers du temps, hein, sur les cycles, équivalent pleine puissance, un tiers du temps de l'année, donc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme pour l'hydroélectricité au fil de l'eau, c'est exactement pareil, l'éolien. Quand il n'y a pas d'eau, les petites centrales hydroélectriques au fil de l'eau, elles fonctionnent pas non plus, ça a toujours été comme ça, et même les grandes. Donc, ça n'est pas particulièrement un souci, ça se régule. La consommation française, comme partout en électricité, elle varie d'une seconde à l'autre, hein, de manière permanente. Et si, la production doit s'adapter aussi d'une seconde à l'autre, hein, de manière permanente toute l'année. Donc, on sait très bien adapter, un profil de production à un profil de consommation. Si l'éolien baisse de puissance, eh bien des moyens, et en particulier hydrauliques, qui sont très rapides, mais après il y a le gaz, tout ça c'est géré depuis des décennies par EDF, et très bien géré, sans souci, et comme par toutes les compagnies de production d'électricité. Donc il n'y a pas de souci de régulation jusqu'à un certain point. Et aujourd'hui, certains pays ont 20% d'énergie en provenance de l'éolien sur l'année. Il y a des régions qui ont plus que ça, qui font 40%, plus de 40-45%, je crois, la Navarre en Espagne, de leur énergie à partir de l'éolien. Donc ça se régule facilement. C'est pas des problèmes techniques. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas des problèmes techniques. Il y en aura éventuellement quand il y aura beaucoup plus d'éolien. Mais actuellement, et surtout en France, ce n'est vraiment pas des problèmes techniques. Il peut y avoir des problèmes de raccordement au réseau quand le réseau est insuffisant, mais il y a énormément de sites où on peut raccorder au réseau sans problème. Donc ce sont des problèmes institutionnels, des problèmes de traitement de dossiers administratifs sur le terrain, des problèmes de volonté, de volonté politique aussi sur le terrain, parce que il n'y a pas que l'administration, il y a la volonté politique aussi, et particulièrement dans la région, elle est assez absente, quoi.
Il y a un petit effort qui a été fait aussi par rapport donc au parc éolien de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui existe depuis peu d'ailleurs, puisque c'est depuis le mois d'août. Il y a 25 éoliennes en action, Ils visent en installer 12 autres d'ici l'année prochaine pour avoir un total de 91 d'ici à 2008. Alors, c'est vrai que par contre, ça demande un certain investissement, 22 millions d'euros pour celles qui ont déjà été construites. Est-ce que c'est de l'argent qui est vite rentabilisé ?
Alors ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du vent d'abord, de la ressource éolienne, qui permet de le rentabiliser plus vite quand il y a plus de vent, bien entendu. Ça dépend des coûts d'investissement, qui dépendent grandement des coûts de raccordement d'ailleurs au réseau électrique, parce que pour le reste c'est proportionnel à ce qu'on installe, mais ça c'est pas proportionnel. Alors en moyenne, on dira que pour un parc éolien installé dans la région, enfin sur Port-Saint-Louis, enfin en basse vallée du Rhône, où contrairement à ce qu'on pense d'ailleurs de manière générale, le vent n'est pas extraordinaire. On a en moyenne moins de 7 mètres secondes à 50 mètres de hauteur sur l'année. Alors que dans le Languedoc, on atteint facilement 9. Donc, ce sont d'autres ressources. Et là, donc, la rentabilité du parc dépend aussi de la façon dont on valorise le kilowattheure produit. Il y a une obligation d'achat par les distributeurs, EDF,
en fait,
entre autres.
Quand on vend un kilowatt d'énergie éolienne, on le revend deux fois plus cher qu'un kilowatt d'énergie nucléaire.
Alors, si on compare les coûts, faut tout comparer. Le kilowattheure nucléaire, son coût de revient est de l'ordre, sur des sites comme je viens de le préciser, j'y allais y arriver, il est de l'ordre de 6 centimes de kilowattheure, 6,5. C'est le coût de revient. Aujourd'hui, il est vendu à ce coût-là, à peu près légèrement supérieur, sinon les opérateurs feraient des pertes. Il est vendu à un coût supérieur pendant 5 ans, les 5 premières années, qui permettent d'amortir une partie du projet. Et ensuite, les 15 années suivantes, puisque le contrat est sur 15 ans, les 15 années suivantes, le coût baisse notoirement, dépendant du vent d'ailleurs qu'il y a sur le site. Donc en moyenne, il est acheté aussi 1,5 centime d'euros en plus, qui permet d'amortir le site sur un certain nombre d'années, alors qu'il va en général entre 5 et 12 ans, quoi, on va dire.
D'accord. Alors, en fait, excusez-moi, je voulais juste faire une petite remarque. Donc, apparemment, les 25 éoliennes installées à Port-Saint-Louis-du-Rhône vont pouvoir produire une énergie qui permettra à 63 000 personnes de répondre à leurs besoins énergétiques. Est-ce qu'on va de plus en plus vers quelque chose de décentralisé, de cette façon ?
Alors, ça, c'est déjà de l'énergie décentralisée. C'est tout l'intérêt de l'éolien, c'est que ça apporte à la fois sur le plan technique un gros avantage, puisque on est en
un parc de 25 éoliennes à Port-Saint-Louis, combien vous avez dit tout à l'heure?
25 éoliennes,
25
c'est ça.
Éoliennes. 25. Plus ou moins. Et moi, je suis pas d'accord sur ce principe-là. Et je suis pas contre l'éolien, mais je suis contre la décentralisation et la diversité. Je suis pour la décentralisation et la diversification, c'est indispensable. Il faut utiliser toutes les sources d'énergie renouvelable pour produire notre énergie demain et aujourd'hui. On peut commencer, c'est pas interdit. Mais un grand parc éolien va de nouveau centraliser. Or, en France, on a été toujours les spécialistes. On a eu les premières centrales électriques au charbon. On a les centrales fuel qui polluent. Et à une époque beaucoup, et on a maintenant les centrales nucléaires. Et on ne peut pas comparer le kilowatt nucléaire et le kilowatt éolien. C'est important, parce que dans le prix du kilowatt nucléaire, on n'a pas pris en compte le stockage et le traitement des déchets nucléaires.
Mais c'est parce que de cette manière-là, c'est la façon de l'État de participer à l'engendrement des énergies renouvelables.
Oui, le prix de rachat tient compte de ce qu'on appelle des externalités environnementales. Alors, c'est un terme un peu barbare qui veut dire que l'énergie propre, dont l'énergie éolienne fait partie, quand on produit avec du solaire, de l'éolien, on ne produit pas de déchets. Que ce soit du gaz carbonique, que ce soit des déchets nucléaires. Et ça, comme on n'intègre pas le coût de la gestion de ces déchets dans les énergies fossiles, il est naturel qu'on donne un petit coup de pouce aux énergies qui, elles, n'en génèrent pas. Parce qu'on les paye quelque part. Le CO2, on le paye aujourd'hui. Il n'y a qu'à demander à la Louisiane combien ça va lui coûter. Et les déchets nucléaires, on ne sait pas. Alors, si on veut tout comparer, si on veut tout comparer, les prix des énergies, il faut tout mettre dans la balance. Il faut mettre les coûts de filière. Aujourd'hui, l'énergie la plus subventionnée, le coût qui a été donné à l'Assemblée nationale au printemps dans le cadre de la discussion sur la loi d'orientation sur l'énergie, La subvention nucléaire depuis 50 ans, c'est 450 milliards d'euros. Un député a sorti ça. J'en étais à 150 pour ma part, mais c'est hallucinant. Mmh. Alors évidemment, dans ces conditions-là, le prix du kilowattheure, il n'est pas très cher, mais on le paye deux fois ça dans nos impôts. Donc voilà, c'est le contribuable qui paye au lieu du consommateur. Donc c'est pas le cas de l'éolien.
Dernière petite question pour conclure sur l'énergie éolienne. La France était engagée au protocole de Kyoto à fournir 21% de sa production énergétique en énergie éolienne. Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre du possible ?
C'est la production d'électricité. Et aujourd'hui, ce n'est pas dans l'ordre du possible. On était à 13% essentiellement dû à l'hydraulique, à 15% essentiellement dû à l'hydraulique il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, l'hydraulicité diminue, les consommations augmentent, donc on n'est plus qu'à 13,5% et on doit faire 21% en 2010. Les trois quarts étant faits en éolien. Et aujourd'hui, on sait que c'est totalement irréaliste puisque au stade où on va actuellement, il nous faut 100 ans pour le faire et 2010, c'est dans 5 ans. Donc on le fera pas, ça c'est sûr.
Beaucoup de retard.
Mais il n'y a pas que l'éolien, la petite hydroélectricité, c'est pareil, elle devait faire le reste et la petite hydroélectricité elle est dans le même état que l'éolien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de faire un projet sur le terrain, ou quasiment pas, et il y a 1000 mégawatts à faire là aussi. Il y en a 10 000 en éolien théoriquement, il y en a 1000 en petite hydro, et ça ne se fait pas, quoi. Donc il y a des blocages partout sur ces filières qui sont dus effectivement à des priorités qui sont affichées ailleurs, c'est tout, et puis il n'y a pas d'autre explication.
Voilà. Alors, on vient d'évoquer les éoliennes de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On va parler tout de suite d'un autre projet qui se présente comme une alternative à la consommation du pétrole et comme pouvant produire une énergie propre. C'est bien sûr l'implantation du réacteur ITAR tout près de chez nous, puisque c'est à Cadarache. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur les ondes de la Grenouille qui se trouve ce soir à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence dans le cadre du festival Arborescence. Nous sommes en direct et en public et nous poursuivons cette grande conversation qu'on a entamée il y a plus ou moins une demi-heure maintenant sur le thème bien des énergies alternatives. Après les biocarburants, l'énergie éolienne et l'évocation d'autres énergies renouvelables, nous allons aborder un autre projet qui est celui du réacteur thermonucléaire ITAR, donc réacteur expérimental qui sera implanté prochainement à Cadarache. En juin 2005, l'annonce était officielle. C'est le site français de Cadarache qui était choisi au détriment des Japonais, donc pour se voir accueillir ITAR. Un projet de grande envergure qui se veut être une alternative au pétrole en reproduisant en laboratoire l'énergie qui règne au cœur des étoiles. Alors, je tiens à préciser que nous avons lancé une invitation au CEA de Cadarache pour qu'un de ses représentants puisse venir expliquer ce projet, une invitation qu'ils ont déclinée en raison d'un problème d'agenda, selon leur dire. Et ITER, c'est quoi ? En quoi pourrait-il être l'énergie de demain comme annoncé ? Bien, c'est à cette question-là que Jean-Pierre Petit va essayer de continuer de répondre. Et pour apporter cette réponse, Jean-Paul Biberian l'a rejoint. Donc bonsoir à vous.
Bonsoir.
Donc, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de physique des solides et maître de conférence à la faculté des sciences de Lumini à Marseille. Alors, le principe, c'est la fusion nucléaire contrôlée. Est-ce qu'il y a un des deux qui pourrait expliquer en 2-3 mois en quoi consiste ce principe de fusion de nucléaire contrôlée ?
Moi, je crois que je dois pouvoir. Bon, ben, dans une machine comitaire, on met de l'hydrogène lourd, du deutérium et du tritium.
Donc, en fait, c'est deux molécules.
C'est pas deux molécules, deux noyaux. Deux noyaux. Les molécules, c'est qu'il y a une paire, c'est deux noyaux.
Voilà. Mais qui sont assez légères dans le but de les fusionner, d'en faire une plus grosse.
Ben, le problème, qu'est-ce que c'est que fusionner ? C'est porter ces noyaux à de très grandes vitesses. Parce qu'à la température, par exemple, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que l'air que vous respirez est constitué de molécules qui vont à 400 mètres secondes. Ça ne vous déchire pas les vacuoles parce que c'est tout petit. Hein. Bon, là, on porte les noyaux à des vitesses beaucoup plus grandes. Et à ce moment-là, ces noyaux peuvent entrer en collision et fusionner. Et à ce moment-là, ça donne un atome d'hélium et un neutron. Voilà la fusion. Et ça correspond à une température de 100 millions de degrés.
Oui, c'est énorme. C'est à peu près ce qu'il y a comme température au niveau du centre du Soleil.
Oui, quelque chose comme ça. Alors, le truc, c'est d'arriver à contenir ce gaz ionisé, qui est un mélange d'électrons et de noyaux. Et on confine ça avec une bouteille magnétique. Et il y a quand même une chose, c'est que
la potentialité de cette fusion, ça avait été évoqué dès l'après-guerre, et 50 ans se sont passés. C'est ça qui est quand même étonnant, c'est que ce système mette si longtemps à aboutir, alors que la bombe atomique, ça a été extrêmement rapide. C'est assez suspect, on pourrait dire. Mmh. Et en fait, le tokamak a été inventé par un Russe qui s'appelle Arsimovitch, et on a commencé par faire des tokamaks d'un mètre de diamètre, de deux mètres de diamètre, de cinq, etc. Et comme me disait un camarade aujourd'hui au téléphone, le tokamak, à chaque fois qu'on résout un problème, il y en a un autre qui vient derrière.
Donc le tokamak étant un réacteur plus ou moins similaire, enfin de modèle inférieur à celui qui sera présenté à ITER, c'est ça?
ITER, c'est beaucoup plus gros que n'était Torsupra. Et Torsupra, alors on augmente l'intensité du champ magnétique. Torsupra était, je crois, à 4 Tesla. ITER va être à 5. C'est pas énorme. Et alors, il y a des problèmes fondamentaux qui ne sont pas évoqués. Par exemple, j'ai regardé qu'il y avait un numéro de Science et Vie de ce mois-ci, dans lequel on retrouve une description, c'est vraiment la chanson classique, le soleil dans une bouteille, on va sortir d'énergie, c'est formidable, c'est formidable. Mais on n'évoque pas les véritables problèmes. Les problèmes, il y en a, par exemple, que ces particules extrêmement rapides frappent les parois, détachent des atomes, il y a une abrasion dont on va parler à Jean-Claude Berrien tout à l'heure, donc un problème de la tenue de ces parois métalliques.
Donc en fait, ce que pour, je vulgarise un petit peu votre vocabulaire, vous êtes en train de remettre en cause le principe au niveau des matériaux qui pourront l'accueillir et de l'énergie qui est censée produire.
Il y a pire que ça, c'est que ces atomes qui sont arrachés de la paroi provoquent un refroidissement du plasma et le plasma va s'éteindre. Alors ce qui fait qu'on a obtenu déjà la fusion pendant, je ne sais pas, quelque chose comme 16 secondes en Angleterre. Bon là, on va dépenser une somme phénoménale, on va arriver peut-être à faire marcher une machine pendant une minute et après on dira donnez-nous 100 milliards d'euros et on va faire encore mieux. On a l'impression que le problème recule comme d'ailleurs une espèce de mirage. Et je crois que le contribuable français n'a plus les moyens de se payer ce genre de rêve.
Oui. Parce que tout reste hypothétique, bien entendu.
Avec l'émergence de problèmes considérables.
Jean-Paul Biberian.
Oui, en fait, il y a deux types de problèmes. Il y a le problème de physique, qui est le problème du plasma, que Jean-Pierre Petit vient d'évoquer, qui est très difficile à résoudre, qu'on a beaucoup de mal à résoudre, mais qu'on peut éventuellement résoudre un jour en supposant que les tailles deviennent de plus en plus grandes du tokamak. Mais ça, ce n'est pas impossible, mais c'est une usine à gaz. Deuxièmement, il y a le problème des matériaux. C'est-à-dire que dans la réaction de fusion dont on parlait tout à l'heure, deutérium-tritium, on fabrique de l'hélium, qui est un gaz tout à fait inoffensif, hein, c'est celui des plongeurs, il n'y a pas de problème, mais aussi on fabrique un neutron très énergétique qui, lui, transporte la plupart de l'énergie. Et qu'est-ce que fait ce neutron? Il interagit avec les parois de l'enceinte. C'est une enceinte sous vide. Il faut voir que c'est une énorme machine à vide, très très grande, qui a du tritium dedans, qui est radioactif, et que ce neutron, quand il arrive sur la paroi, il abîme le métal de la paroi, il fragilise le métal. Et comme c'est sous vide, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des fuites. Donc on n'a pas de matériaux, pour le moment, qui puissent tenir le bombardement neutronique très intense qui va durer des années et des années. Et intervenir dans ces machines-là, c'est très difficile, parce que c'est radioactif, donc il faut rentrer avec des robots. Et donc les solutions sont quasiment impossibles, ou peut-être possibles, mais à des coûts exorbitants. Et on voit pas très bien comment on peut installer des tokamaks de ce genre en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. C'est impossible. On peut éventuellement fabriquer un avec toute la terre qui s'occupe de ça.
Donc vous restez plutôt sceptique en fait sur les résultats qui pourraient aboutir, mais comme malheureusement on pourra en parler pendant des heures, on a les bruits des installations d'arborescence derrière nous. Ça nous déstabilise un petit peu. Moi j'ai envie de vous demander, même dans le cas où cette réalisation est concluante, où ITER fait ses preuves. C'est vrai que la démarche de construction, ce serait pour 2008, les labos seraient disponibles en 2023, la recherche pourrait démarrer pendant 25 ans à ce moment-là. Tout serait disponible en 2050. Est-ce que ce ne sera pas trop tard, messieurs?
Bien sûr que si, c'est trop tard.
Elle est surtout là, je crois, la question.
Les problèmes sont en train de monter à une vitesse faramineuse. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que nous avons des problèmes considérables à l'échelle de moins d'une décennie. Et quand les gens sont en train de dire en 2050, on va résoudre les problèmes, c'est irréaliste. Et actuellement, on met de l'argent dans ces recherches. Pourquoi? Parce que je pense que les gens qui sont là-dedans vivent un peu comme dans une bulle, comme nos hommes politiques. Ils vivent comme si on était riches, quoi, comme si on pouvait faire n'importe quoi. Avec cet argent, il faudrait le placer dans toutes ces recherches qu'on a évoquées, le solaire, l'éolien, et choses comme ça. Et là, on aurait des résultats fantastiques. Mais ça n'est pas assez sophistiqué. Ça donne l'impression d'une sorte de retour au 19e siècle, vous vous rendez compte?
Alors justement, on disait ce sera trop tard. J'aimerais bien savoir qu'on refasse juste un petit point pour savoir où on en est aujourd'hui. on annonce qu'on en a encore pour 40 ans à pouvoir pomper du pétrole. C'est, peut-être que ça a diminué depuis le cyclone qui a ravagé les États-Unis dernièrement. Où on en est où par rapport aux ressources naturelles?
Je peux essayer de répondre un petit peu. D'abord, c'est très difficile à savoir. Dans les ressources naturelles, on a le pétrole, on a le gaz, on a le charbon. Donc, il y a beaucoup de possibilités en réalité. Il y a peut-être, on dit qu'il y a pour 400 ans de charbon, il y a pour une centaine d'années ou 200 ans de gaz. Bon, le pétrole, on ne sait pas trop, mais peut-être 40 ans, 20 ans. Donc, il y a des possibilités. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais le vrai problème, c'est les variations brutales qui se passent. Si vous vous rappelez bien, en 73, quand il y a eu la crise pétrolière, on nous annonçait qu'il n'y aurait plus de pétrole dans les 10 ou 20 ans qui viennent, et il y a toujours du pétrole. Hein. Donc il faut faire un peu attention à ça. Alors, il n'est pas sûr du tout qu'on va manquer de pétrole très très vite. Je ne suis pas sûr du tout de ça, moi. Il y a beaucoup de, ils ferment beaucoup les robinets pour faire monter les prix. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vend le même produit 4 fois plus cher, il a intérêt à le vendre 4 fois plus cher que 4 fois moins cher. Donc il y a de la spéculation là-dedans. Et deuxièmement, les systèmes tels que le ITER vont faire que de l'électricité, ils ne vont pas faire marcher les voitures. En France, on est déjà tout nucléaire, on n'a pas besoin de pétrole pour faire de l'électricité quasiment.
Je veux dire une chose, c'est que le problème est planétaire. Vous avez 1,2 milliard de Chinois. Est-ce qu'ils vont tous avoir une voiture? Je veux dire qu'il faut créer de nouvelles sources d'énergie non polluantes à l'échelle de la planète, pas penser à notre petit problème de consommateurs pétroliers européens.
D'accord. Alors, est-ce que justement, enfin, c'est vrai que le gros hic, entre guillemets, chez Hectare, c'est qu'il y a 10 milliards d'euros qui sont investis dans ce projet. Aujourd'hui, vu l'urgence de la situation qui est quand même alarmante, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux retourner à des procédés qu'on n'a peut-être pas exploités à fond? Je pense notamment au moteur Stirling. Voilà. Et d'ailleurs, Patrick Raspino est parmi nous. Donc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes technicien supérieur en biomédical et vous avez réalisé par passion et par hobby une maquette de moteur Stirling que vous nous avez d'ailleurs amené. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe?
Le principe du moteur Stirling, c'est un moteur à combustion externe et non interne.
Ça veut dire?
Donc on peut utiliser toutes sortes d'énergie pour le faire fonctionner. Donc solaire, gaz, peu importe, du moment que ça chauffe, il tourne.
D'accord.
En gros, donc on pourrait utiliser la pollution pourrait, les problèmes de pollution et d'énergie, je pense que c'est une voie pour résoudre ces problèmes.
Alors votre maquette, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne? Donc Jean-Pierre Petit, parce qu'à la radio on ne voit pas l'image, active un briquet pour allumer l'appareil. Est-ce que vous pouvez prêter votre micro pour qu'on entende ce qui va se passer?
Oui, mais cette machine, il fait une quinzaine de centimètres de long. C'était un véritable petit bijou en micromécanique. Et là, Patrick est en train de chauffer. Donc, alors, le moteur Stirling, ça marche avec n'importe quelle chaleur. Et alors là où c'est passionnant, c'est que, par exemple, les Américains à Sandia, à Kirkland, ont développé des générateurs Stirling. On voit le moteur qui tourne. Il va bientôt se mettre à tourner.
Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas approfondi ce type de recherche? Ça a été un peu mis de côté, non?
Il faut dire que le moteur Stirling, il remonte à 1816. Ça n'a pas été inventé aujourd'hui. Hein. Et ça fonctionne. Alors, le prétexte qui était donné, c'est que ça a un mauvais rendement énergétique. Mais en fait, ça a un rendement intéressant. Et aujourd'hui, les Américains, ils travaillent dessus, comme vient de le dire Jean-Pierre. Mais nous, on a négligé complètement ce système-là. Quoi. En France, on a abandonné. Il ne se fait rien en Stirling. Quoi.
Et vous voyez, le moteur Stirling, comme les Américains l'ont montré, il n'est pas particulièrement adapté au solaire, par
Patrick,
exemple.
Patrick, si vous pouvez mettre votre micro, comme ça on entend, pendant que Jean-Pierre Petit donne l'explication.
Il tourne à 1600 tours secondes, là. Hein. Bon, je veux dire que le moteur Stirling américain, par exemple, de Sandia, c'est un truc qui est gros comme un bidon de 200 litres, qui se trouve au foyer d'un miroir parabolique de, je crois, une vingtaine de mètres de diamètre. Et ça sort 20 kilowatts. Et aux États-Unis, ils ont prévu d'en construire 24 000 et les installer dans le désert. Alors, le désert, c'est commode parce qu'il n'y a pas de vent, là où ils vont les mettre, dans le Nouveau-Mexique. Mais si on mettait ça en Nouvelle-Orléans, vous imaginez, des miroirs comme ça, c'est très fragile. Alors, à mon avis, il faudrait passer à des miroirs, ce qu'on appelle des miroirs de Fresnel, qui sont des en marque quasi plan comme les lentilles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je veux dire que moi, si j'étais directeur au CNRS ou au ministre de la Recherche, je foutrais de l'argent là-dedans en vitesse.
Et voilà. Et ça pourrait produire de l'énergie. Pourquoi ce genre de moteur dans la vie quotidienne, si on décide?
Ça peut produire de l'électricité. À partir de là, ça peut produire de l'électricité et à partir de là, on fait ce qu'on veut. Avec une parabole solaire,
on produit 5, 10 kilos, 20 kilos, on produit. Et on peut l'utiliser aussi.
Jean-Pierre Petit.
Il y a un sous-marin suédois qui marche avec un moteur Stirling parce que c'est silencieux. Si vous allez voir, il y a des sites internet qui évoquent ce genre de choses-là. En Allemagne, il y a eu beaucoup de choses sur les Stirling en Allemagne. Il y a eu des choses équivalentes aux mobilettes. Ça ne sert pas uniquement à faire marcher des moteurs électriques.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie solaire, pour la transformer en électricité, on utilise des panneaux solaires. C'est extrêmement cher et le rendement est faible. Si au lieu de faire ça, on prend la chaleur du soleil, on la focalise sur les moteurs Stirling, on fait tourner le moteur qui fait de l'électricité avec un générateur et on a de l'électricité pour beaucoup moins cher que les panneaux solaires. C'est tout. Mais c'est toujours l'énergie du soleil thermique.
Hein. Est-ce qu'il y a des chances que ce type d'énergie soit réexploité à nouveau en France à l'heure actuelle? Est-ce qu'on fasse des recherches plus approfondies? Jean-Louis Millet, peut-être.
Oui, comme on est parti sur ITER, avec les sommes que ça représente, à mon avis, on investira guère dans le Stirling. Hein. C'est ça le problème. Il y a énormément de possibilités, mais on ne veut pas investir dessus.
Patrick Raspino, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cette petite maquette?
Tout simplement pour démontrer des systèmes, c'est rudement simple en fait comme système justement, on peut produire de l'énergie propre avec des systèmes simples et sûrement peu coûteux, contrairement justement à un projet tel qu'ITER. Donc c'est intéressant de voir tout ça fonctionner.
D'accord. Donc ça, ce serait une solution de retourner, pour potasser sur des systèmes qui existent et qui étaient mis de côté, ou peut-être aller à la découverte de ce qui pourrait être les énergies renouvelables de demain. C'est un petit peu ce à quoi vous vous atteliez, Jean-Paul Biberian, parce que je sais que vous recherchez dans le domaine des fusions froides.
Oui.
Et que vous faites partie des 100 chercheurs dans le monde qui s'attellent à cette tâche, ce qui est peu.
Un peu plus que 100 quand même, mais bon, pas beaucoup plus. Effectivement.
C'est quoi le principe alors?
Le principe ressemble à celui de ITER, où on fait fusionner deux atomes d'hydrogène, mais au lieu, on utilise une astuce, voilà. Pour que les atomes d'hydrogène, les noyaux d'hydrogène qui sont positifs, vous savez que les charges positives se repoussent, comme des aimants qui se repoussent. Et pour les faire se coller, on est obligé de les pousser avec une très grande énergie, une très grande vitesse, c'est-à-dire une très grande température, dans ce qu'on fait avec ITER. Par contre, dans la fusion froide, on a utilisé une petite astuce. C'est qu'au lieu de mettre l'hydrogène dans le vide, comme on fait dans ITER, on le met dans un métal, qui est du palladium en principe, mais pas seulement du palladium. Et à ce moment-là, l'hydrogène rentre entre les atomes de palladium. Imaginez le palladium comme des billes ou des tomates sur un étal de marchand de tomates bien rangé. Vous voyez qu'entre les tomates, il y a des trous. Et là, l'hydrogène est très petit. Donc on arrive à le rentrer dans les trous qui sont là. Et à ce moment-là, quand on arrive à mettre deux hydrogènes côte à côte, ils peuvent fusionner parce qu'ils sont très près l'un de l'autre. Et qu'il y a en plus dans le matériau solide des électrons. Vous savez qu'un métal est fait, n'importe quel atome est fait d'un noyau et d'électrons. Et dans un métal, il y a beaucoup d'électrons. Et ces électrons qui sont négatifs, on les fait inverse. C'est-à-dire au lieu de repousser, ils attirent. Maintenant, quand vous mettez des électrons entre les deux noyaux d'hydrogène, ils vont s'attirer et ils vont fusionner beaucoup plus facilement.
Et donc, ce genre de recherche, la fusion froide, enfin, ce genre d'énergie, vous m'aviez dit que par contre, on pouvait l'exploiter en petite quantité, que c'était de petites échelles, ça veut dire que c'est pas l'énergie de demain?
Non, c'est l'énergie de demain, mais la différence qu'il y a, c'est qu'au lieu d'avoir une énorme centrale qui distribue l'électricité à tout le monde, c'est un peu comme Internet, vous savez. Internet, c'est quelque chose en réseau, de délocalisé. Chacun a son propre ressource. Et là, c'est pareil. Chacun peut avoir son propre générateur chez lui. Imaginons que tout marche comme on veut. Dans l'avenir, vous aurez dans votre appartement un générateur qui vous fera de l'électricité, qui vous fera du chauffage et de la climatisation. Quand vous avez trop d'électricité, vous le donnez à votre voisin. Quand vous n'en avez pas assez, vous le prenez à votre voisin. Et le tout s'équilibre. Mais il n'y a plus besoin de grosses centrales. C'est un peu un problème pour les directeurs de centrales, évidemment. Pas de centrales de prison, des centrales nucléaires, je pense.
Voilà. Et ça pourrait être applicable à quoi?
Ça pourrait être applicable à tout, parce qu'une fois qu'on a un générateur qui fait de la chaleur, on peut faire de l'électricité qui fait marcher une voiture, on peut faire de l'électricité pour votre maison, on peut résoudre normalement, si tout va bien comme on l'espère, et on l'espère beaucoup, ça va résoudre quasiment tous nos problèmes, et je suis pas inquiet je suis un des rares à ne pas être inquiet sur l'avenir, parce que je travaille sur des sujets qui peuvent déboucher assez rapidement sur des applications qui vont nous aider énormément.
Et ça pourrait être déployé à grande échelle, j'ai envie de dire, à partir de quand?
Alors là, j'ai du mal à savoir. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 16 ans, mais on a très très peu de moyens. On bricole tous avec des moyens vraiment misérables.
le pot de réception du CEA Cadarache, ça nous ferait fonctionner pendant 5 ans, nous. On a vraiment beaucoup de mal à trouver des crédits pour fonctionner. Personne ne veut nous financer. On rentre dans aucun créneau. Personne n'en veut de notre système, nulle part. Donc je ne peux pas vous dire. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, mais ce n'est pas dans 50 ans, ça, je suis sûr de ça.
Bon, on a fait le tour on a abordé les biocarburants, on a abordé les éoliennes, on a abordé les anciens modèles, les nouveaux à venir. Il y a plein d'énergies dont on n'a pas parlé, le solaire, les biomasses, on en est où dans tout ça?
J'aimerais dire quelque chose sur la biomasse. D'une part, ce que vient de dire Jean-Paul Huberien est très important, il faut aller vers l'autonomie énergétique. Et ça, c'est une formule extraordinaire, ce que tu viens de proposer, Jean-Paul. Et on peut, notre démarche au niveau d'APTE, c'est on fait des formations sur Mérindol, et on fait des formations pour donner la possibilité aux gens d'aller vers l'autonomie énergétique, de découvrir aussi ce qu'est l'électricité, ce qu'est ce que nous consommons en permanence au niveau de l'énergie, et on doit prendre conscience que on peut devenir très rapidement autonome. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas l'État. L'État tient à conserver le contrôle sur la masse. Et à partir de là, ils peuvent nous emmener où ils veulent, ils peuvent nous faire ce qu'ils ont envie. On a vu qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Tout à l'heure, Jean-Pierre a parlé de Tchernobyl, mais ils sont capables aussi de nous faire avaler la vente des autoroutes qui ont été payées par le contribuable et qui aujourd'hui vont être vendues pour pouvoir faire un budget 2006 qui tienne la route, c'est quand même quelque chose de scandaleux parce qu'on est en train de dilapider tous les biens de la France qui ont été payés depuis des années par le contribuable. Alors je termine au niveau de la biomasse. On peut utiliser le bois, qui est une source d'énergie renouvelable et qui permettrait aussi de diminuer les incendies.
Parce que si on ne peut pas contribuer à la déforestation.
Ah non. En France aujourd'hui, les forêts brûlent parce qu'elles ne sont pas entretenues, parce qu'elles ne sont pas gérées, parce qu'elles ne sont pas élaguées ni débroussaillées. Ça, c'est lamentable. Donc on peut exploiter une forêt sans déforester. Déforester, c'est faire des coupes blanches. Mais il n'est pas question de déforester de cette manière-là. Mais par contre, si on laisse les forêts telles qu'elles sont gérées aujourd'hui, on n'a qu'à voir tous les incendies qu'on a eus en Provence cette année. Il y a bientôt plus de forêts autour de Marseille. Quand on voit tout ce qui a brûlé sur la commune de Vitrolles, c'est impressionnant. Marseille, ça ne brûlera pas parce que ça a pratiquement tout brûlé déjà. Donc c'est le bois est très intéressant. Et en plus, quelque chose qui a été abandonné en France, c'est la gazéification du bois. Et ça, c'était développé pendant la guerre. Il y a des véhicules qui ont fonctionné au gazo. Donc on a rien, on va réinventer, on va essayer...
Gazogène,
voilà. Et c'est très, très fiable parce que le rendement est très élevé. Moi, j'ai visité en Belgique des installations qui ont été développées à l'université de Louvain-la-Neuve par la société Xilowatt. Et on produit de l'électricité et on produit de la chaleur. Et on arrive à 95% de rendement énergétique. Et on peut faire des gazos de 4-5 kg en fonction de nos besoins. Donc on a dit tout à l'heure qu'on pouvait développer des petites éoliennes sur les toits des maisons. On peut développer donc la gazéification du bois. Il y a beaucoup de possibilités. Mais on ne veut pas... Quand il y a eu le premier choc pétrolier dans les années 70... Je vais être très vite, très rapide.
Très court parce qu'on est vraiment...
Je vais être très vite.
Il nous reste 4 minutes.
Voilà. Quand il y a eu le premier choc pétrolier, il faut savoir que la France a investi dans la gazéification du bois. Elle a mis le Semagref sur le gazo. Le Semagref a travaillé pendant quelques années, a réalisé pas mal de gazo qui étaient fiables. Parce que le projet de la France était de faire rouler des camions de la société Calberson au gazo. Ils ont fait même des essais. Et puis dès que le pétrole a rebaissé, eh bien on a tout mis dans les tiroirs, et les gazos qui avaient été réalisés par le Semagref ont été vendus au domaine d'une manière, à un prix dérisoire. Donc c'est, et depuis 30 ans, on n'en parle plus. Quand on parle de la gazéification du bois aux directeurs ou des sous-directeurs de l'ADEME, ils ne connaissent pas. Voilà, ça c'est grave.
Alors, moi j'aimerais juste qu'on fasse une petite conclusion sur ces économies, enfin sur ces énergies, excusez-moi, alternatives. Comment vous les envisagez dans l'avenir? Est-ce que ce sera toujours des énergies complémentaires à quelque chose?
Juste un mot là-dessus.
Jean-Paul Libérien.
On a beaucoup de mal à prévoir l'avenir, hein, à part Madame Soleil, on n'y arrive pas vraiment, et même elle non plus d'ailleurs. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 100 ans ou 200 ans, c'est impossible, personne ne sait ce qui va se passer. Si on regarde il y a 100 ans, personne n'avait prévu ce qui allait se passer aujourd'hui. En 1905, des avions commençaient à peine à voler, le téléphone existait à peine, le cinéma à peine, personne, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, et on ne peut pas savoir quelles découvertes technologiques vont être faites. À chaque génération, on a l'impression qu'on sait tout maintenant, qu'avant on savait rien et que demain il n'y a plus rien à trouver. C'est général, ça a toujours été comme ça. Donc il y a rien, il peut se passer tellement de choses nouvelles dans les années à venir, si on laisse les chercheurs chercher, les gens faire ce qu'ils ont à faire, mais de toute façon, moi je suis optimiste, ils le feront. Il n'y a aucun problème, il y a toujours des gens qui vont faire contre vents et marées.
Jean-Pierre Petit.
Moi, je voudrais dire simplement une chose, c'est qu'en 99, je suis allé à un colloque de physique, et c'était à Montpellier, et le président de l'université de Montpellier est venu en nous disant, vous savez, la ville de Montpellier est en expansion démographique, mais au point de vue de la faculté, ça périclite, et le département de physique est en perdition, et nous aimerions avoir des sujets de thèse. Alors, vous voyez, il y a une chose, c'est que les étudiants se désintéressent de la physique. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique de recherche. Or, tout ce qu'on vient de raconter là, ce sont des sujets de recherche absolument fascinants, ce sont un éventail de thèses extraordinaires. Simplement, les gens ne voient pas qu'il y a des choses fantastiques à étudier et à découvrir. Ils vont mettre le fric dans les super cordes pour la physique théorique ou alors dans ITER. Ce sont des danseuses pour moi.
Donc la vie est lancée aux étudiants de regagner des auditoires de physique pour essayer de penser les énergies propres et renouvelables de demain. Ce sera un petit peu le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas tous d'être venus pour discuter. On aurait pu prolonger le débat, mais malheureusement on est limité dans le temps. Alors je remercie Olivier à la technique qui nous a permis de retransmettre ce débat en public sur les ondes de Radio Grenouille. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée sur les 3-8.